La prisonnière, chapitre 2, suite 4. Comme dans les illisibles carnets où un chimiste de génie, qui ne sait pas la mort si proche, note des découvertes qui resteront peut-être à jamais ignorées, l'ami de Mademoiselle Vinteuil avait dégagé, de papier plus illisible que des papyrus ponctués d'écritures cunéiformes, la formule éternellement vraie, à jamais féconde de cette joie inconnue, l'espérance mystique de l'ange écarlate du matin. Et moi, pour qui, moins pourtant que pour Vinteuil peut-être, elle avait été aussi, elle venait d'être ce soir même encore, en réveillant à nouveau ma jalousie d'Albertine, elle devait, surtout dans l'avenir, être cause de tant de souffrances. C'était grâce à elle, par compensation, qu'avait pu venir jusqu'à moi l'étrange appel que je ne cesserais plus jamais d'entendre, comme la promesse et la preuve qu'il existait autre chose, réalisable par l'art, sans doute, que le néant que j'avais trouvé dans tous les plaisirs, et dans l'amour même. Et que si ma vie me semblait si vaine, du moins n'avait-elle pas tout accompli. Ce qu'elle avait permis, grâce à son labeur, qu'on connut de Vinteuil, c'était à vrai dire toute l'œuvre de Vinteuil. À côté de ce septuor, certaines phrases de la sonate, que seul le public connaissait, apparaissaient comme tellement banales qu'on ne pouvait pas comprendre comment elles avaient pu exciter tant d'admiration. C'est ainsi que nous sommes surpris que, pendant des années, des morceaux aussi insignifiants que la romance à l'étoile, la prière d'Élisabeth, aient pu soulever au concert des amateurs fanatiques qui s'exténuaient à applaudir et à crier bis quand venait de finir ce qui pourtant n'est que fade pauvreté pour nous qui connaissons Tristan, l'or du Rhin, les maîtres chanteurs. Il faut supposer que ces mélodies sans caractère contenaient déjà, cependant, en quantités infinitésimales, et par cela même peut-être plus assimilables, quelque chose de l'originalité des chefs-d'œuvre, qui, rétrospectivement, compte seul pour nous, mais que leur perfection même eût peut-être empêché d'être compris. Elles ont pu leur préparer le chemin dans les cœurs. Toujours est-il que, si elle donnait un pressentiment confus des beautés futures, elle laissait celle-ci dans un inconnu complet. Il en était de même pour Vinteuil. Si, en mourant, il n'avait laissé, en exceptant certaines parties de la sonate, que ce qu'il avait pu terminer, ce qu'on eût connu de lui eût été, auprès de sa grandeur véritable, aussi peu de choses que, pour Victor Hugo, par exemple, s'il était mort après le pas d'armes du roi Jean, la fiancée du timbalier et Sarah la baigneuse, sans avoir rien écrit de la légende des siècles et des contemplations. Ce qui est pour nous son œuvre véritable fut resté purement virtuel, aussi inconnu que ces univers auxquels notre perception n'atteint pas, dont nous n'aurons jamais une idée. Au reste, le contraste apparent, cette union profonde entre le génie, le talent aussi, et même la vertu, et la gaine de vice, où, comme il était arrivé pour Vinteuil, il est si fréquemment contenu, conservé, était lisible, comme en une vulgaire allégorie, dans la réunion même des invités au milieu desquels je me retrouvais, quand la musique fut finie. Cette réunion, bien que limitée cette fois au salon de Madame Verdurin, ressemblait à beaucoup d'autres, dont le gros public ignore les ingrédients qui y entrent, et que les journalistes philosophes, s'ils sont un peu informés, appellent parisiennes ou panamistes ou dreyfusardes, sans se douter qu'elles peuvent se voir aussi bien à Pétersbourg, à Berlin, à Madrid et dans tous les temps. Si, en effet, le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, homme véritablement artiste, bien élevé et snob, quelques duchesses et trois ambassadeurs avec leurs femmes étaient ce soir chez Madame Verdurin, Le motif proche, immédiat, de cette présence résidait dans les relations qui existaient entre M. de Charlus et Morel, relations qui faisaient désirer au baron de donner le plus de retentissement possible au succès artistique de sa jeune idole, et d'obtenir pour lui la croix de la Légion d'honneur. La cause la plus lointaine qui avait rendu cette réunion possible était qu'une jeune fille, entretenant avec Mademoiselle Vinteuil des relations parallèles à celles de Charlie et du baron, avait mis au jour toute une série d'œuvres géniales et qui avait été une telle révélation qu'une souscription n'allait pas tarder à être ouverte sous le patronage du ministre de l'Instruction publique en vue de faire élever une statue à Vinteuil. D'ailleurs, à ses œuvres, tout autant que les relations de Mademoiselle Vinteuil avec son ami, avaient été utiles celles du baron avec Charlie, sorte de chemin de traverse, de raccourci, grâce auquel le monde allait rejoindre ses œuvres sans le détour, sinon d'une incompréhension qui persisterait longtemps, du moins d'une ignorance totale qui eût pu durer des années. Chaque fois que se produit un événement accessible à la vulgarité d'esprit du journaliste philosophe, c'est-à-dire généralement un événement politique, les journalistes philosophes sont persuadés qu'il y a quelque chose de changé en France, qu'on ne reverra plus de telles soirées, qu'on n'admirera plus Ibsen, Renan, Dostoïevski, D'Annunzio, Tolstoï, Wagner, Strauss. Car les journalistes philosophes tire argument des dessous équivoques de ces manifestations officielles pour trouver quelque chose de décadent à l'art qu'elle glorifie et qui, bien souvent, est le plus austère de tous. Mais il n'est pas de nom parmi les plus révérés de ces journalistes philosophes qui n'ait tout naturellement donné lieu à de telles fêtes étranges, quoique l'étrangeté en fût moins flagrante et mieux cachée. Pour cette fête-ci, les éléments impurs qui s'y conjuguaient me frappaient à un autre point de vue. Certes, j'étais aussi à même que personne de les dissocier, ayant appris à les connaître séparément. Mais surtout, il arrivait que les uns, ceux qui se rattachaient à Mademoiselle Vinteuil et à son ami, me parlant de Combray, me parlaient aussi d'Albertine, c'est-à-dire de Balbec, puisque c'est parce que j'avais vu jadis Mademoiselle Vinteuil à Montjouvain et que j'avais appris l'intimité de son amie avec Albertine que j'allais tout à l'heure, en rentrant chez moi, trouver, au lieu de la solitude, Albertine qui m'attendait. Et que les autres, ceux qui concernaient Morel et M. de Charlus, en me parlant de Balbec, où j'avais vu sur le quai de Doncières se nouer leur relation, me parlaient de Combray et de ses deux côtés, car M. de Charlus, c'était un de ses guermantes, comte de Combray, habitant Combray sans y avoir de logis, entre ciel et terre, comme Gilbert le Mauvais dans son vitrail. Enfin, Morel était le fils de ce vieux valet de chambre qui m'avait fait connaître la dame en rose et permis, tant d'années après, de reconnaître en elle Madame Swann. Monsieur de Charlus recommença. Au moment où, la musique finie, ses invités prirent congé de lui, la même erreur qu'à leur arrivée. Il ne leur demanda pas d'aller vers la patronne, de l'associer, elle et son mari, à la reconnaissance qu'on lui témoignait. Ce fut un long défilé, mais un défilé devant le baron seul, et non même sans qu'il s'en rendît compte, car, ainsi qu'il me le dit quelques minutes après, la forme même de la manifestation artistique a revêtu ensuite un côté sacristie assez amusant. On prolongeait même les remerciements par des propos différents qui permettaient de rester un instant de plus auprès du baron, pendant que ceux qui ne l'avaient pas encore félicité de la réussite de sa fête stagnaient, piétinaient. Plus d'un mari avait envie de s'en aller, mais sa femme, snob bien que duchesse, protestait. « Non, non, quand nous devrions attendre une heure, il ne faut pas partir sans avoir remercié Palamède, qui s'est donné tant de peine. Il n'y a que lui qui puisse à l'heure actuelle donner des fêtes pareilles. » personne n'eût plus pensé à se faire présenter à Madame Verdurin qu'à l'ouvreuse d'un théâtre, où une grande dame a, pour un soir, amené toute l'aristocratie. « Étiez-vous hier chez Eliane de Montmorency, mon cousin ?» demandait Madame de Mortemart, désireuse de prolonger l'entretien. « Eh bien, mon Dieu, non. J'aime bien Eliane, mais je ne comprends pas le sens de ses invitations. Je suis un peu bouchée, sans doute. » ajoutait-il avec un large sourire épanoui. Cependant que Madame de Mortemart sentait qu'elle allait avoir la primeur d'une de Palamède, comme elle en avait souvent Dorian. J'ai bien reçu, il y a une quinzaine de jours, une carte de l'agréable Eliane. Au-dessus du nom contesté de Montmorency, il y avait cette aimable invitation. Mon cousin, faites-moi la grâce de penser à moi vendredi prochain, à 9h30. Au-dessous étaient écrits ces deux mots, moins gracieux. Quatuor, tchèque. Ils me semblèrent fort inintelligibles, sans plus de rapport en tout cas avec la phrase précédente, que ces lettres au dos desquelles on voit que les pistoliers en avaient commencé une autre, par les mots « cher ami ». La suite manquant, et n'a pas pris une autre feuille, soit distraction, soit économie de papier. J'aime bien Eliane, aussi je ne lui en voulus pas, je me contentais de ne pas tenir compte des mots étranges et déplacés de « quatuor tchèque ». Et comme je suis un homme d'ordre, je mis au-dessus de ma cheminée l'invitation de penser à Madame de Montmorency, le vendredi à 9h30. Bien que connue pour ma nature obéissante, ponctuelle et douce, comme Buffon, dit du chameau. Et le rire s'épanouit plus largement autour de Monsieur de Charlus, qui savait qu'au contraire, on le tenait pour l'homme le plus difficile à vivre. Je fus en retard de quelques minutes. Le temps d'ôter mes vêtements de jour. Et sans en avoir trop de remords, pensant que 9h30 était mis pour 10, à 10h tapant, dans une bonne robe de chambre, les pieds en d'épais chaussons, je me mis au coin de mon feu, à penser à Eliane, comme elle me l'avait demandé, et avec une intensité qui ne commença à décroître qu'à 10h30. Dites-lui bien, je vous prie, que j'ai strictement obéi à son audacieuse requête. Je pense qu'elle sera contente. » Madame de Mortemart se pâma de rire, et Monsieur de Charlus tout ensemble. « Et demain, » ajouta-t-elle, sans penser qu'elle avait dépassé et de beaucoup le temps qu'on pouvait lui concéder, « irez-vous chez nos cousins, la Rochefoucauld ?»« Oh, cela, c'est impossible. Ils m'ont convié, comme vous, je le vois, à la chose la plus importante à concevoir et à réaliser, et qui s'appelle, si j'en crois la carte d'invitation, « thé dansant ». Je passais pour fort adroit quand j'étais jeune, mais je doute que j'eusse pu, sans manquer à la décence, prendre mon thé en dansant. Or, je n'ai jamais aimé manger ni boire d'une façon malpropre. Vous me direz qu'aujourd'hui, je n'ai plus à danser, mais même assis confortablement à boire du thé, de la qualité duquel, d'ailleurs, je me méfie, puisqu'il s'intitule « dansant ». Je craindrais que des invités plus jeunes que moi, et moins adroits peut-être que je n'étais à leur âge, renversassent sur mon habit leur tasse, ce qui interromprait pour moi le plaisir de vider la mienne. » Et Monsieur de Charlus ne se contentait même pas d'omettre dans la conversation Madame Verdurin et de parler de sujets de toutes sortes qu'il semblait avoir plaisir à développer et varier, pour le cruel plaisir, qui avait toujours été le sien, de faire rester indéfiniment sur leurs jambes, à faire la queue, les amis qui attendaient avec une épuisante patience que leur tour fût venu. Il faisait même des critiques sur toute la partie de la soirée dont Madame Verdurin était responsable. Mais à propos de tasses, qu'est-ce que c'est que ces étranges demi-bols, pareils à ceux où, quand j'étais jeune homme, on faisait venir des sorbets de chez Poire et Blanche? Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que c'était pour du café glacé. Mais en fait, de café glacé, je n'ai vu ni café ni glace. Quelle curieuse petite chose à destination mal définie. » Pour dire cela, Monsieur de Charlus avait placé verticalement sur sa bouche ses mains gantées de blanc, et arrondit prudemment son regard désignateur, comme s'il craignait d'être entendu et même vu des maîtres de maison. Mais ce n'était qu'une feinte, car dans quelques instants, il allait dire les mêmes critiques à la patronne elle-même, et un peu plus tard lui enjoindre insolemment « Et surtout, plus de tasses à café glacé, donnez-les à celles de vos amis dont vous désirez en les dire la maison, mais surtout qu'elles ne les mettent pas dans le salon, car on pourrait s'oublier et croire qu'on s'est trompé de pièce, puisque ce sont exactement des pots de chambre. » « Mais mon cousin, » disait l'invité, en baissant elle aussi la voix et en regardant d'un air interrogateur M. de Charlus, non par crainte de fâcher Mme Verdurin, mais de le fâcher lui. « Peut-être qu'elle ne sait pas encore tout très bien. On le lui apprendra. » « Oh, oh !» riait l'invité. « Elle ne peut pas trouver un meilleur professeur. Elle a de la chance. Avec vous, on est sûr qu'il n'y aura pas de fausses notes. » « En tout cas, il n'y en a pas eu dans la musique. » « Oh, c'était sublime. Ce sont de ces joies qu'on n'oublie pas. À propos de ce violoniste de génie, » continuait-elle, croyant dans sa naïveté que M. de Charlus s'intéressait au violon en soi. « En connaissez-vous un que j'ai entendu l'autre jour jouer merveilleusement une sonate de forêt? Il s'appelle Franck. »«
Oui, c'est une horreur !»
répondait M. de Charlus, sans se soucier de la grossièreté d'un démenti qui impliquait que sa cousine n'avait aucun goût. « En fait de violoniste, je vous conseille de vous en tenir au mien. » Les regards allaient recommencer à s'échanger entre M. de Charlus et sa cousine, à la fois baissée et épieure, car, rougissante et cherchant par son zèle à réparer sa gaffe, Mme de Mortemart allait proposer à M. de Charlus de donner une soirée pour faire entendre Morel. Or, pour elle, cette soirée n'avait pas le but de mettre en lumière un talent, but qu'elle allait pourtant prétendre être le sien, et qui était réellement celui de M. de Charlus. Elle ne voyait là qu'une occasion de donner une soirée particulièrement élégante, et déjà calculait qui elle inviterait et qui elle laisserait de côté. Ce triage, préoccupation dominante des gens qui donnent des fêtes, ceux-là même que les journaux mondains ont le toupet ou la bêtise d'appeler l'élite, altère aussitôt le regard et l'écriture, plus profondément que ne ferait la suggestion d'un hypnotiseur. Avant même d'avoir pensé à ce que Morel jouerait, préoccupation jugée secondaire, et avec raison, car si même tout le monde, à cause de M. Charlus, avait eu la convenance de se taire pendant la musique, personne en revanche n'aurait eu l'idée de l'écouter. Madame de Mortemart, ayant décidé que Madame de Valcourt ne serait pas des élus, avait pris, par ce fait même, l'air de conjuration, de complot, qui ravale si bas celle même des femmes du monde qui pourraient le plus aisément se moquer du qu'en dira-t-on. N'y aurait-il pas moyen que je donne une soirée pour faire entendre votre ami ? Dit à voix basse Madame de Mortemart, qui, tout en s'adressant uniquement à M. de Charlus, ne put s'empêcher, comme fascinée, de jeter un regard sur Madame de Valcourt, l'exclue, afin de s'assurer que celle-ci était à une distance suffisante pour ne pas entendre.
« Non, elle ne peut pas distinguer ce que je dis, »
conclut mentalement Madame de Mortemart, rassurée par son propre regard, lequel avait eu, en revanche, sur Madame de Valcourt, un effet tout différent de celui qu'il avait pour but. « Tiens !» se dit Madame de Valcourt en voyant ce regard. « Marie-Thérèse arrange avec Palamède quelque chose dont je ne dois pas faire partie. »«
Vous voulez dire mon protégé ?»
rectifiait M. de Charlus, qui n'avait pas plus de pitié pour le savoir grammatical que pour les dons musicaux de sa cousine. Puis, sans tenir aucun compte des muettes prières de celle-ci, qui s'excusait elle-même en souriant.
« Mais si !»
dit-il d'une voix forte et capable d'être entendue de tout le salon.
« Bien qu'il y ait toujours danger à ce genre d'exportation d'une personnalité fascinante dans un cadre qui lui fait forcément subir une déperdition de son pouvoir transcendantal, et qui resterait en tout cas à approprier.
Madame de Mortemart se dit que le mezzo voce, le pianissimo de sa question, avait été peine perdue, après le gueuloir par où avait passé la réponse. Elle se trompa. Madame de Valcourt n'entendit rien, pour la raison qu'elle ne comprit pas un seul mot. Ses inquiétudes diminuèrent et se furent rapidement éteintes si madame de Mortemart, craignant de se voir déjouée et craignant d'avoir à inviter madame de Valcourt, avec qui elle était trop liée pour la laisser de côté, si l'autre savait avant, n'eût de nouveau levé les paupières dans la direction d'Édith, comme pour ne pas perdre de vue un danger menaçant, non sans les rabaisser vivement, de façon à ne pas trop s'engager. Elle comptait, le lendemain de la fête, lui écrire une de ses lettres, complément du regard révélateur, lettres qu'on croit habiles et qui sont comme un aveu sans réticence et signées. Par exemple, « Chère Édith, je m'ennuie après vous. Je ne vous attendais pas trop hier soir. » Comment m'aurait-elle attendu, se serait dit Édith, puisqu'elle ne m'avait pas invitée. « Car je sais que vous n'aimez pas extrêmement ce genre de réunion, qui vous ennuie plutôt. Nous n'en aurions pas moins été très honorés de vous avoir. » Jamais madame de Mortemart n'employait ce terme « honoré », excepté dans les lettres, où elle cherchait à donner à un mensonge une apparence de vérité. « Vous savez que vous êtes toujours chez vous à la maison. Du reste, vous avez bien fait, car cela a été tout à fait raté, comme toutes les choses improvisées en 2 heures, etc. » Mais déjà, le nouveau regard furtif lancé sur elle avait fait comprendre à Édith tout ce que cachait le langage compliqué de monsieur de Charlus. Ce regard fut même si fort qu'après avoir frappé madame de Valcourt, le secret évident et l'intention de cachotterie qu'il contenait rebondirent sur un jeune péruvien que madame de Mortemart comptait, au contraire, inviter. Mais, soupçonneux, voyant jusqu'à l'évidence les mystères qu'on faisait, sans prendre garde qu'il n'était pas pour lui, il éprouva aussitôt, à l'endroit de madame de Mortemart, une haine atroce, et se jura de lui faire 1000 mauvaises farces, comme de faire envoyer 50 cafés glacés chez elle le jour où elle ne recevrait pas, de faire insérer, celui où elle recevrait, une note dans les journaux disant que la fête était remise, et de publier des comptes rendus mensongers des suivantes, dans lesquelles figureraient les noms connus de toutes les personnes que, pour des raisons variées, on ne tient pas à recevoir, même pas à se laisser présenter. Madame Mortemart avait tort de se préoccuper de madame de Valcourt. Monsieur de Charlus allait se charger de dénaturer, bien davantage que n'eût fait la présence de celle-ci, la fête projetée. « Mais mon cousin, » dit-elle en réponse à la phrase du cadre à approprier, dont son état momentané d'hyperesthésie lui avait permis de deviner le sens. « Nous vous éviterons toute peine. Je me charge très bien de demander à Gilbert de s'occuper de tout. »«
Non, surtout pas, d'autant plus qu'il ne sera pas invité. Rien ne se fera que par moi. Il s'agit avant tout d'exclure les personnes qui ont des oreilles pour ne pas entendre. »
La cousine de monsieur de Charlus, qui avait compté sur l'attrait de Morel pour donner une soirée où elle pourrait dire qu'à la différence de tant de parentes, elle avait eu Palamède, reporta brusquement sa pensée de ce prestige de monsieur de Charlus sur tant de personnes avec lesquelles il allait la brouiller s'il se mêlait d'exclure et d'inviter. La pensée que le prince de Guermantes, à cause duquel, en partie, elle désirait exclure madame de Valcourt, qu'il ne recevait pas, ne serait pas convié, l'effrayait. Ses yeux prirent une expression inquiète.
« Est-ce que la lumière un peu trop vive vous fait mal ?»
demanda monsieur de Charlus avec un sérieux apparent dont l'ironie foncière ne fut pas comprise. « Non, pas du tout. Je songeais à la difficulté, non à cause de moi, naturellement, mais des miens, que cela pourrait créer si Gilbert apprend que j'ai eu une soirée sans l'inviter.
lui qui n'a jamais quatre chats sans... Mais justement, on commencera par supprimer les quatre chats qui ne pourraient que miauler. Je crois que le bruit des conversations vous a empêché de comprendre qu'il s'agissait non de faire des politesses grâce à une soirée, mais de procéder aux rites habituels à toute véritable célébration. Puis, jugeant non que la personne suivante avait trop attendu, mais qu'il n'essayait pas d'exagérer les faveurs faites à celle qui avait eu en vue beaucoup moins Morel que ses propres listes d'invitations, M. de Charlus, comme un médecin qui arrête la consultation quand il juge être resté le temps suffisant, signifia à sa cousine de se retirer, non en lui disant au revoir, mais en se tournant vers la personne qui venait immédiatement après. « Bonsoir, Madame de Montesquiou. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu Hélène. Dites-lui que toute abstention générale, même la plus noble, autant dire la sienne, comporte des exceptions, si celles-ci sont éclatantes, comme c'était ce soir le cas. Se montrer rare, c'est bien, mais faire passer avant le rare, qui n'est que négatif, le précieux, c'est mieux encore. Pour votre sœur, dont je prise plus que personne la systématique absence, là où ce qui l'attend ne la vaut pas, au contraire, à une manifestation mémorable comme celle-ci, sa présence eût été une préséance et eût apporté à votre sœur, déjà si prestigieuse, un prestige supplémentaire. » Puis il passa à une troisième personne, M. d'Argencourt. « Je fus très étonné de voir, là, aussi aimable et flagorneur avec M. de Charlus qu'il était sec avec lui autrefois, se faisant présenter Morel et lui disant qu'il espérait qu'il viendrait le voir. M. d'Argencourt, cet homme si terrible pour l'espèce d'homme dont était M. de Charlus. Or, il en vivait maintenant entouré. Ce n'était certes pas qu'il fût devenu à cet égard un des pareils de M. de Charlus. Mais depuis quelque temps, il avait à peu près abandonné sa femme pour une jeune femme du monde qu'il adorait. Intelligente, elle lui faisait partager son goût pour les gens intelligents et souhaitait fort d'avoir M. de Charlus chez elle. Mais surtout, M. d'Argencourt, fort jaloux et peu impuissant, sentant qu'il satisfaisait mal sa conquête et voulant à la fois la préserver et la distraire, ne le pouvait sans danger qu'en l'entourant d'hommes inoffensifs, à qui il faisait ainsi jouer le rôle de gardien du sérail. Ceux-ci le trouvaient devenu très aimable et le déclaraient beaucoup plus intelligent qu'il n'avait cru, ce dont sa maîtresse et lui étaient ravis. Les autres invités de M. de Charlus s'en allèrent assez rapidement. Beaucoup disaient « Je ne voudrais pas aller à la sacristie. » Le petit salon où le baron, ayant Charlie à côté de lui, recevait les félicitations et qu'il appelait ainsi lui-même. Il faudrait pourtant que Palamède me voie pour qu'il sache que je suis restée jusqu'à la fin. Aucune ne s'occupait de Madame Verdurin. Plusieurs feignirent de ne pas la reconnaître et de dire adieu par erreur à Madame Cottard, en me disant de la femme du docteur « C'est bien Madame Verdurin, n'est-ce pas ?» Madame d'Arpajon me demanda, à portée des oreilles de la maîtresse de maison, est-ce qu'il y a seulement jamais eu un monsieur Verdurin? Les duchesses, ne trouvant rien des étrangetés auxquelles elles s'étaient attendues, dans ce lieu qu'elles avaient espéré plus différent de ce qu'elles connaissaient, se rattrapaient, faute de mieux, en étouffant des fous rires devant les tableaux d'Elstir. Pour le reste, qu'elles trouvaient plus conforme qu'elles n'avaient cru à ce qu'elles connaissaient déjà, elles en faisaient honneur à M. de Charlus en disant « Comme Palamède sait bien arranger les choses, il monterait une féerie dans une remise ou dans un cabinet de toilette que ça n'en serait pas moins ravissant. » Les plus nobles étaient celles qui félicitaient avec le plus de ferveur M. de Charlus de la réussite d'une soirée, dont certaines n'ignoraient pas le ressort secret, sans en être embarrassées d'ailleurs. Cette société, par souvenir peut-être de certaines époques de l'histoire où leur famille était déjà arrivée à un degré identique d'impudeur pleinement consciente, poussant le mépris des scrupules presque aussi loin que le respect de l'étiquette. Plusieurs d'entre elles engagèrent sur place Charlie pour des soirs où il viendrait jouer le Septuor de Vinteuil. Mais aucune n'eut même l'idée d'y convier Madame Verdurin. Celle-ci était au comble de la rage quand Monsieur de Charlus, qui, porté sur un nuage, ne pouvait s'en apercevoir, voulut, par décence, inviter la patronne à partager sa joie. Et ce fut peut-être plutôt en se livrant à son goût de littérature qu'à un débordement d'orgueil que ce doctrinaire des fêtes artistes dit à Madame Verdurin « Eh bien, êtes-vous contente? Je pense qu'on le serait à moins. Voyez que, quand je me mêle de donner une fête, cela n'est pas réussi à moitié. Je ne sais pas si vos notions héraldiques vous permettent de mesurer exactement l'importance de la manifestation, le poids que j'ai soulevé, le volume d'air que j'ai déplacé pour vous. Vous avez eu la reine de Naples, le frère du roi de Bavière, les trois plus anciens pères. Si Vinteuil et Mahomet, nous pouvons dire que nous avons déplacé pour lui les moins amovibles des montagnes. Pensez que, pour assister à votre fête, la reine de Naples est venue de Neuilly, ce qui est beaucoup plus difficile pour elle que de quitter les deux Siciles, » dit-il avec une intention de rosserie, malgré son admiration pour la reine. « C'est un événement historique. Pensez qu'elle n'était peut-être jamais sortie depuis la prise de Gaète. Il est probable que, dans les dictionnaires, on mettra comme date culminante le jour de la prise de Gaète et celui de la soirée Verdurin. L'éventail qu'elle a posé pour mieux applaudir Vinteuil mérite de rester plus célèbre que celui que Madame de Metternich a brisé parce qu'on sifflait Wagner. Elle l'a même oublié, son éventail, dit Madame Verdurin, momentanément apaisée par le souvenir de la sympathie que lui avait témoignée la reine, et elle montra à Monsieur de Charlus l'éventail sur un fauteuil. « Oh, comme c'est émouvant !» s'écria Monsieur de Charlus en s'approchant avec vénération de la relique. « Il est d'autant plus touchant qu'il est affreux. La petite Violette est incroyable !» Et des spasmes d'émotion et d'ironie le parcouraient alternativement. « Mon Dieu, je ne sais pas si vous ressentez ces choses-là comme moi. Swann serait simplement mort de convulsion s'il avait vu cela. Je sais bien qu'à quelque prix qu'ils doivent monter, j'achèterai cet éventail à la vente de la reine, car elle sera vendue, comme elle n'a pas le sou. » Ajouta-t-il, la cruelle médisance ne cessant jamais chez le baron de se mêler à la vénération la plus sincère, bien qu'elles partissent de deux natures opposées, mais réunies en lui. Elles pouvaient même se porter tour à tour sur un même fait, car M. de Charlus, qui, du fond de son bien-être d'homme riche, raillait la pauvreté de la reine, était le même qui souvent exaltait cette pauvreté, et qui, quand on parlait de la princesse Murat, reine des deux Siciles, répondait « Je ne sais pas de qui vous voulez parler. » Il n'y a qu'une seule reine de Naples, qui est sublime, celle-là, et n'a pas de voiture. Mais de son omnibus, elle anéantit tous les équipages, et on se mettrait à genoux dans la poussière en la voyant passer. Je le lèguerai à un musée. En attendant, il faudra le lui rapporter pour qu'elle n'ait pas à payer un fiacre pour le faire chercher. Le plus intelligent, étant donné l'intérêt historique d'un pareil objet, serait de voler cet éventail, mais cela la gênerait. Parce qu'il est probable qu'elle n'en possède pas d'autre, ajouta-t-il en éclatant de rire. Enfin, vous voyez que pour moi elle est venue, et ce n'est pas le seul miracle que j'ai fait. Je ne crois pas que personne, à l'heure qu'il est, ait le pouvoir de déplacer les gens que j'ai fait venir. Du reste, il faut faire à chacun sa part. Charlie et les autres musiciens ont joué comme des dieux. « Et, ma chère patronne, ajouta-t-il avec condescendance, vous-même avez eu votre part de rôle dans cette fête. Votre nom n'en sera pas absent. L'histoire a retenu celui du page qui arma Jeanne d'Arc quand elle partit combattre. En somme, vous avez servi de trait d'union. Vous avez permis la fusion entre la musique de Vinteuil et son génial exécutant. vous avez eu l'intelligence de comprendre l'importance capitale de tout l'enchaînement de circonstances qui ferait bénéficier l'exécutant de tout le poids d'une personnalité considérable. Et s'il ne s'agissait pas de moi, je dirais providentiel, à qui vous avez eu le bon esprit de demander d'assurer le prestige de la réunion, d'amener devant le violon de Morel les oreilles directement attachées aux langues les plus écoutées. Non, non, ce n'est pas rien. Il n'y a pas de rien dans une réalisation aussi complète. Tout y concourt. La Dura a été merveilleuse. Enfin, tout. C'est pour cela, conclut-il, comme il aimait à m'origéner, que je me suis opposé à ce que vous invitiez de ces personnes diviseurs qui, devant les êtres prépondérants que je vous amenais, eussent joué le rôle de virgule dans un chiffre, les autres réduites à n'être que de simples dixièmes. J'ai le sentiment très juste de ces choses-là. Vous comprenez, il faut éviter les gaffes quand nous donnons une fête qui doit être digne de Vinteuil, de son génial interprète, de vous, et, j'ose le dire, de moi. Vous auriez invité la Mollé que tout était raté. C'était la petite goutte contraire, neutralisante, qui rend une potion sans vertu. L'électricité se serait éteinte, les petits fours ne seraient pas arrivés à temps. L'orangeade aurait donné la colique à tout le monde. C'était la personne à ne pas avoir. À son nom seul, comme dans une féerie, aucun son ne serait sorti des cuivres. La flûte et le hautbois auraient été pris d'une extinction de voix subite. Morel lui-même, même s'il était parvenu à donner quelques sons, n'aurait plus été en mesure, et au lieu du septuor de Vinteuil, vous auriez eu sa parodie par Beckmesser, finissant au milieu des huées. Moi, qui crois beaucoup à l'influence des personnes, j'ai très bien senti, dans l'épanouissement de certains largots, qui s'ouvrait jusqu'au fond comme une fleur, dans le surcroît de satisfaction du final, qui n'était pas seulement allegro, mais incomparablement allègre, que l'absence de la Mollé inspirait les musiciens et dilatait de joie jusqu'aux instruments de musique eux-mêmes. D'ailleurs, le jour où on reçoit les souverains, on n'invite pas sa concierge. En l'appelant la Mollé, comme il disait d'ailleurs très sympathiquement la Dura, M. de Charlus lui faisait justice, car toutes ces femmes étaient des actrices du monde, et il est vrai aussi que même en considérant ce point de vue, la comtesse Mollé n'était pas égale à l'extraordinaire réputation d'intelligence qu'on lui faisait, et qui donnait à penser à ses acteurs ou à ses romanciers médiocres, qui, à certaines époques, ont une situation de génie, soit à cause de la médiocrité de leurs confrères, parmi lesquels aucun artiste supérieur n'est capable de montrer ce qu'est le vrai talent, soit à cause de la médiocrité du public, qui, exista-t-il une individualité extraordinaire, serait incapable de la comprendre. Dans le cas de Madame Mollé, il est préférable, sinon entièrement exact, de s'arrêter à cette première explication. Le monde étant le royaume du néant, il n'y a, entre les mérites des différentes femmes du monde, que des degrés insignifiants, que peuvent seulement follement majorer les rancunes ou l'imagination de M. de Charlus. Et certes, s'il parlait comme il venait de le faire, dans ce langage qui était un ambigu précieux des choses de l'art et du monde, c'est parce que ses colères de vieille femme et sa culture de mondain ne fournissaient à l'éloquence véritable qui était la sienne que des thèmes insignifiants. Le monde des différences n'existant pas à la surface de la terre, parmi tous les pays que notre perception uniformiste a plus forte raison, n'existe-t-il pas dans le monde? Existe-t-il d'ailleurs quelque part? Le septuor de Vinteuil avait semblé me dire que oui. Mais où? Comme M. de Charlus aimait aussi à répéter de l'un à l'autre, cherchant à brouiller, à diviser pour régner, il ajouta « Vous avez, en ne l'invitant pas, enlevé à Mme Mollé l'occasion de dire « Je ne sais pas pourquoi cette Mme Verdurin m'a invitée, je ne sais pas ce que c'est que ces gens-là, je ne les connais pas. » Elle a déjà dit l'an passé que vous la fatiguiez de vos avances. C'est une sotte, ne l'invitez plus. En somme, elle n'est pas une personne si extraordinaire. Elle peut bien venir chez vous sans faire d'histoire, puisque j'y viens bien. En somme, conclut-il, il me semble que vous pouvez me remercier, car tel que ça a marché, c'était parfait. La duchesse de Guermantes n'est pas venue, mais on ne sait pas, c'était peut-être mieux ainsi. Nous ne lui en voudrons pas, et nous penserons tout de même à elle pour une autre fois. D'ailleurs, on ne peut pas ne pas se souvenir d'elle. Ses yeux même nous disent « Ne m'oubliez pas, puisque ce sont deux myosotis. » Et je pensais à part moi combien il fallait que l'esprit des Guermantes, la décision d'aller ici et pas là, fut fort pour l'avoir emporté chez la duchesse sur la crainte de Palamède. Devant une réussite aussi complète, on est tenté, comme Bernardin de Saint-Pierre, de voir partout la main de la Providence. La duchesse de Duras était enchantée. Elle m'a même chargé de vous le dire, ajouta M. de Charlus en appuyant sur les mots, comme si Mme Verdurin devait considérer cela comme un honneur suffisant. Suffisant, et même à peine croyable, car il trouva nécessaire, pour être cru, de dire « parfaitement », emporté par la démence de ceux que Jupiter veut perdre. Elle a engagé Morel chez elle, où on redonnera le même programme, et je pense même à demander une invitation pour M. Verdurin. Cette politesse au mari seul était, sans que M. de Charlus en eût même l'idée, le plus sanglant outrage pour l'épouse, laquelle se croyant à l'égard de l'exécutant, en vertu d'une sorte de décret de Moscou en vigueur dans le petit clan, le droit de lui interdire de jouer au dehors sans son autorisation expresse, était bien résolue à interdire sa participation à la soirée de Madame de Duras. Rien qu'en parlant avec cette faconde, M. de Charlus irritait Madame Verdurin, qui n'aimait pas qu'on fît bande à part dans leur petit clan. Que de fois, et déjà à la Raspelière, entendant le baron parler sans cesse à Charlie, au lieu de se contenter de tenir sa partie dans l'ensemble concertant du clan, s'était-elle écriée en montrant le baron « Quelle tapette il a! Quelle tapette! Ah, pour une tapette, c'est une fameuse tapette !» Mais cette fois, c'était bien pis. Enivré de ces paroles, M. de Charlus ne comprenait pas qu'en raccourcissant le rôle de Mme Verdurin et en lui fixant d'étroites frontières, il déchaînait ce sentiment haineux qui n'était chez elle qu'une forme particulière, une forme sociale de la jalousie. Mme Verdurin aimait vraiment les habitués, les fidèles du petit clan. Elle les voulait tout à leur patronne. Faisant la part du feu, comme ces jaloux qui permettent qu'on les trompe, mais sous leur toit et même sous leurs yeux, c'est-à-dire qu'on ne les trompe pas, elle concédait aux hommes d'avoir une maîtresse, un amant, à condition que tout cela n'eût aucune conséquence sociale hors de chez elle, se noua et se perpétua à l'abri des mercredis. Tout éclat de rire furtif d'Odette auprès de Swann lui avait jadis rongé le cœur. Depuis quelque temps, tout aparté entre Morel et le baron. Elle trouvait à ses chagrins une seule consolation qui était de défaire le bonheur des autres. Elle n'eût pu supporter longtemps celui du baron. Voici que cet imprudent précipitait la catastrophe en ayant l'air de restreindre la place de la patronne dans son propre petit clan. Déjà, elle voyait Morel allant dans le monde sans elle, sous l'égide du baron. Il n'y avait qu'un remède, donner à choisir à Morel entre le baron et elle. Et, profitant de l'ascendant qu'elle avait pris sur Morel, en faisant preuve à ses yeux d'une clairvoyance extraordinaire, grâce à des rapports qu'elle se faisait faire, à des mensonges qu'elle inventait et qu'elle lui servait, les uns et les autres, comme corroborant ce qu'il était porté à croire lui-même, et ce qu'il allait voir à l'évidence, grâce au panneau qu'elle préparait, et où les naïfs venaient tomber, profitant de cet ascendant, la faire choisir, elle, de préférence au baron. Quant aux femmes du monde qui étaient là, et qui ne s'était même pas fait présenter. Dès qu'elle avait compris leurs hésitations ou leurs sans-gêne, elle avait dit « Ah, je vois ce que c'est. C'est un genre de vieille grue qui ne nous convient pas. Elle voit ce salon pour la première fois. » Car elle serait morte plutôt que de dire qu'on avait été moins aimable avec elle qu'elle n'avait espéré. « Ah, mon cher général !» s'écria brusquement M. de Charlus en lâchant Mme Verdurin parce qu'il apercevait le général Deltour, secrétaire de la présidence de la République, lequel pouvait avoir une grande importance pour la croix de Charlie, et qui, après avoir demandé un conseil à Cottard, s'éclipsait rapidement. « Bonsoir, chère et charmante amie. Eh bien, c'est comme ça que vous vous tirez des pattes sans me dire adieu ?» dit le baron avec un sourire de bonhomie et de suffisance, car il savait bien qu'on était toujours content de lui parler un moment de plus. Et comme, dans l'état d'exaltation où il était, il faisait à lui tout seul, sur un ton suraigu, les demandes et les réponses, « Eh bien, êtes-vous content? N'est-ce pas que c'était bien beau ?» L'andante, n'est-ce pas? C'est ce qu'on n'a jamais écrit de plus touchant. Je défie de l'écouter jusqu'au bout sans avoir les larmes aux yeux. Vous êtes charmant d'être venu. Dites-moi, j'ai reçu ce matin un télégramme parfait de Frobertville qui m'annonce que, du côté de la grande chancellerie, les difficultés sont aplanies, comme on dit. » La voix de M. Charlus continuait à s'élever, aussi perçante, aussi différente de la voix habituelle, que celle d'un avocat qui plaide avec emphase de son débit ordinaire, phénomène d'amplification vocale par surexcitation et euphorie nerveuse, analogue à celle qui, dans les dîners qu'elle donnait, montait à un diapason si élevé la voix comme le regard de Madame de Guermantes. Je comptais vous envoyer demain matin un mot par un garde pour vous dire mon enthousiasme, en attendant que je puisse vous l'exprimer de vive voix. Mais vous étiez si entouré. L'appui de Frobertville sera loin d'être à dédaigner. Mais de mon côté, j'ai la promesse du ministre, dit le général. Ah, parfait! Du reste, vous avez vu que c'est bien ce que mérite un talent pareil. Oyo s'était enchanté. Je n'ai pas pu voir l'ambassadrice. Était-elle contente? Qui ne l'aurait pas été? Excepté ceux qui ont des oreilles pour ne pas entendre. Ce qui ne fait rien, du moment qu'ils ont des langues pour parler. Profitant de ce que le baron s'était éloigné pour parler au général, Madame Verdurin fit signe à Brichot. Celui-ci, qui ne savait pas ce que Madame Verdurin allait lui dire, voulut l'amuser, et, sans se douter combien il me faisait souffrir, dit à la patronne, « Le baron est enchanté que Mademoiselle Vinteuil et son amie ne soient pas venues. Elle le scandalise énormément. Il a déclaré que leur mœur était à faire peur. Vous n'imaginez pas comme le baron est pudibond et sévère sur le chapitre des mœurs. » Contrairement à l'attente de Brichot, Madame Verdurin ne s'égaya pas. « Il est immonde, répondit-elle. Proposez-lui de venir fumer une cigarette avec vous, pour que mon mari puisse emmener sa dulcinée sans que le charlus s'en aperçoive et l'éclaire sur l'abîme où il roule. » Brichot semblait avoir quelques hésitations. « Je vous dirai, reprit Madame Verdurin pour lever les derniers scrupules de Brichot, que je ne me sens pas en sûreté avec ça chez moi. Je sais qu'il a eu de sales histoires et que la police l'a à l'œil. » Et comme elle avait un certain don d'improvisation quand la malveillance l'inspirait, Madame Verdurin ne s'arrêta pas là. « Il paraît qu'il a fait de la prison. Oui, oui, ce sont des personnes très renseignées qui me l'ont dit. Je sais, du reste, par quelqu'un qui demeure dans sa rue, qu'on n'a pas idée des bandits qu'il fait venir chez lui. » Et comme Brichot, qui allait souvent chez le baron, protestait, Madame Verdurin, s'animant, s'écria « Mais je vous en réponds, c'est moi qui vous le dis !» Expression par laquelle elle cherchait d'habitude à étayer une assertion jetée un peu au hasard. « Il mourra assassiné un jour ou l'autre, comme tous ces pareils d'ailleurs. Il n'ira peut-être même pas jusque-là, parce qu'il est dans les griffes de ce Jupien qu'il a eu le toupet de m'envoyer, et qui est un ancien forçat, je le sais. Vous savez, oui, et de façon positive. il tient Charlus par des lettres, qui sont quelque chose d'effrayant, il paraît. Je le sais par quelqu'un qui les a vues et qui m'a dit « Vous vous trouveriez mal si vous voyez cela. » C'est comme ça que ce Jupien le fait marcher au bâton et lui fait cracher tout l'argent qu'il veut. J'aimerais mille fois mieux la mort que de vivre dans la terreur où vit Charlus. En tout cas, si la famille de Morel se décide à porter plainte contre lui, je n'ai pas envie d'être accusé de complicité. S'il continue, ce sera à ses risques et périls, mais j'aurai fait mon devoir. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas toujours folichon. » Et déjà agréablement enfiévrée par l'attente de la conversation que son mari allait avoir avec le violoniste, Madame Verdurin me dit « Demandez à Brichot si je ne suis pas une amie courageuse et si je ne sais pas me dévouer pour sauver les camarades. » Elle faisait allusion aux circonstances dans lesquelles elle l'avait, juste à temps, brouillée avec sa blanchisseuse d'abord, avec Madame de Cambremer ensuite. Brouilles à la suite desquelles Brichot était devenu presque complètement aveugle et, disait-on, morphinomane. Une amie incomparable, perspicace et vaillante, répondit l'universitaire avec une émotion naïve. Madame Verdurin m'a empêché de commettre une grande sottise, me dit Brichot quand celle-ci se fut éloignée. Elle n'hésite pas à couper dans le vif, elle est interventionniste. Comme dit notre ami Cottard. J'avoue pourtant que la pensée que le pauvre baron ignore encore le coup qui va le frapper me fait une grande peine. Il est complètement fou de ce garçon. Si Madame Verdurin réussit, voilà un homme qui sera bien malheureux. Du reste, il n'est pas certain qu'elle n'échoue pas. Je crains qu'elle ne réussisse qu'à semer des mésintelligences entre eux, qui, finalement, sans les séparer, n'aboutiront qu'à les brouiller avec elle. » C'était arrivé souvent entre Madame Verdurin et les fidèles, mais il était visible qu'en elle, le besoin de conserver leur amitié était de plus en plus dominé par celui que cette amitié ne fût jamais tenue en échec par celle qu'ils pouvaient avoir les uns pour les autres. L'homosexualité ne lui déplaisait pas tant qu'elle ne touchait pas à l'orthodoxie. Mais, comme l'Église, elle préférait tous les sacrifices à une concession sur l'orthodoxie. Je commençais à craindre que son irritation contre moi ne vînt de ce qu'elle avait su que j'avais empêché Albertine d'aller chez elle dans la journée, et qu'elle n'entreprît auprès d'elle, si elle n'avait déjà commencé, le même travail pour la séparer de moi que son mari allait, à l'égard de Charlus, opérer auprès du musicien. « Voyons, allez chercher Charlus, trouvez un prétexte, il est temps, » dit Madame Verdurin. « Et tâchez surtout de ne pas le laisser revenir avant que je vous fasse chercher. »« Ah, quelle soirée !» ajouta Madame Verdurin, qui dévoila ainsi la vraie raison de sa rage. « Avoir fait jouer ses chefs-d'œuvre devant ses cruches. Je ne parle pas de la reine de Naples, elle est intelligente, c'est une femme agréable. » Lisez. Elle a été très aimable avec moi. Mais les autres, ah, c'est à vous rendre enragé. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je n'ai plus 20 ans. Quand j'étais jeune, on me disait qu'il fallait savoir s'ennuyer. Je me forçais. Mais maintenant, ah, non, c'est plus fort que moi. J'ai l'âge de faire ce que je veux. La vie est trop courte. M'ennuyer, fréquenter des imbéciles, feindre avoir l'air de les trouver intelligents, ah, non, je ne peux pas. « Allons, voyons, Brichot, il n'y a pas de temps à perdre. »« J'y vais, madame, j'y vais, » finit par dire Brichot, comme le général Deltour s'éloignait. Mais d'abord, l'universitaire me prit un instant à part. « Le devoir moral, » me dit-il, « est moins clairement impératif que ne l'enseignent nos éthiques. Que les cafés théosophiques et les brasseries qu'anciennes en prennent leur parti. » Nous ignorons déplorablement la nature du bien. Moi-même, qui, sans nulle vantardise, ai commenté pour mes élèves, en toute innocence, la philosophie du prénommé Emmanuel Kant, je ne vois aucune indication précise, pour le cas de casuistique mondaine devant lequel je suis placé, dans cette critique de la raison pratique où le grand défroqué du protestantisme platonisa, à la mode de Germanie, pour une Allemagne préhistoriquement sentimentale et aulique, à toutes fins utiles d'un mysticisme poméranien. C'est encore le banquet, mais donné cette fois à Königsberg, à la façon de là-bas, indigeste et assaisonné avec choucroute et sans gigolo. Il est évident, d'une part, que je ne puis refuser à notre excellente hôtesse le léger service qu'elle me demande, en conformité pleinement orthodoxe avec la morale traditionnelle. Il faut éviter avant toute chose, car il n'y en a pas beaucoup qui fassent dire plus de sottises, de se laisser piper avec des mots. Mais enfin, n'hésitons pas à avouer que, si les mères de famille avaient part au vote, le baron risquerait d'être lamentablement blackboulé comme professeur de vertu. C'est malheureusement avec le tempérament d'un roué qu'il suit sa vocation de pédagogue. Remarquez que je ne dis pas de mal du baron, ce doux homme qui s'est découpé un rôti comme personne. Possède, avec le génie de l'anathème, des trésors de bonté. Il peut être amusant comme un pitre supérieur, alors qu'avec tel de mes confrères, académiciens, s'il vous plaît, je m'ennuie, comme dirait Xénophon, à 100 drachmes l'heure. Mais je crains qu'il n'en dépense, à l'égard de Morel, un peu plus que la saine morale ne commande, et sans savoir dans quelle mesure le jeune pénitent se montre docile ou rebelle aux exercices spéciaux que son catéchiste lui impose en matière de mortification. Il n'est pas besoin d'être grand clerc pour savoir que nous pécherions, comme dit l'autre, par mansuétude à l'égard de ce rose-croix qui semble nous venir de Pétrone, après avoir passé par Saint-Simon, si nous lui accordions, les yeux fermés, en bonne et due forme, le permis de sataniser. Et pourtant, en occupant cet homme, pendant que Madame Verdurin, pour le bien du pécheur, est bien justement tentée par une telle cure, va, en parlant au jeune étourdi sans embâge, lui retirer tout ce qu'il aime, lui porter peut-être un coup fatal. Il me semble que je la tire, comme qui dirait, dans un guet-apens, et je recule, comme devant d'une manière de l'acheter. Ceci dit, il n'hésita pas à la commettre, et le prenant par le bras, « Allons, baron, si nous allions fumer une cigarette, ce jeune homme ne connaît pas encore toutes les merveilles de l'hôtel. » Je m'excusai en disant que j'étais obligé de rentrer. « Attendez encore un instant, » dit Brichot. « Vous savez que vous devez me ramener, et je n'oublie pas votre promesse. »« Vous ne voulez vraiment pas que je vous fasse sortir l'argenterie ? Rien ne serait plus simple. » me dit monsieur de Charlus. Comme vous me l'avez promis, pas un mot de la question décoration à Morel. Je veux lui faire la surprise de le lui annoncer tout à l'heure, quand on sera un peu parti, bien qu'il dise que ce n'est pas important pour un artiste, mais que son oncle le désire. Je rougis, car, pensais-je, par mon grand-père, les Verdurin savaient qui était l'oncle de Morel. Alors, vous ne voulez pas que je vous fasse sortir les plus belles pièces ? Me dit monsieur de Charlus. Du reste, vous les connaissez, vous les avez vues 10 fois à la Raspelière. Je n'osais pas lui dire que ce qui eût pu m'intéresser, ce n'était pas le médiocre d'une argenterie bourgeoise, même la plus riche, mais quelques spécimens, fût-ce seulement sur une belle gravure de celle de madame du Barry. J'étais beaucoup trop préoccupé. Et ne l'eussais-je pas été par cette révélation relative à la venue de mademoiselle Vinteuil. Toujours dans le monde, beaucoup trop distrait et agité pour arrêter mon attention sur des objets plus ou moins jolis. Elle n'eût pu être fixée que par l'appel de quelque réalité s'adressant à mon imagination. Comme eût pu le faire ce soir une vue de cette Venise à laquelle j'avais tant pensé l'après-midi, ou quelque élément général, commun à plusieurs apparences et plus vrai qu'elle, qui de lui-même éveillait toujours en moi un esprit intérieur et habituellement ensommeillé, mais dont la remontée à la surface de ma conscience me donnait une grande joie. Or, comme je sortais du salon appelé salle de théâtre et traversais, avec Brichot et monsieur de Charlus, les autres salons, en retrouvant, transposer au milieu d'autres certains meubles vus à la raspelière et auxquels je n'avais prêté aucune attention, je saisis, entre l'arrangement de l'hôtel et celui du château, un certain air de famille, une identité permanente, et je compris Brichot quand il me dit en souriant « Tenez, voyez-vous ce fond de salon ? Cela du moins peut, à la rigueur, vous donner l'idée de la rue Montalivet il y a 25 ans. » À son sourire, dédié au salon défunt qu'il revoyait, je compris que ce que Brichot, peut-être sans s'en rendre compte, préférait dans l'ancien salon, plus que les grandes fenêtres, plus que la gaie jeunesse des patrons et de leurs fidèles, c'était cette partie irréelle que je dégageais moi-même de quelques similitudes entre la Raspelière et le Quai Conti, de laquelle, dans un salon, comme en toute chose, la partie extérieure, actuelle, contrôlable pour tout le monde, n'est que le prolongement. C'était cette partie devenue purement morale, d'une couleur qui n'existait plus que pour mon vieil interlocuteur, qu'il ne pouvait pas me faire voir. Cette partie qui s'est détachée du monde extérieur pour se réfugier dans notre âme, à qui elle donne une plus-value, où elle s'est assimilée à sa substance habituelle, si muant. Maison détruite, gens d'autrefois, compotier de fruits des soupers que nous nous rappelons, en cet albâtre translucide de nos souvenirs, duquel nous sommes incapables de montrer la couleur qu'il n'y a que nous qui voyons, ce qui nous permet de dire véridiquement aux autres, au sujet de ces choses passées, qu'ils n'en peuvent avoir une idée, que cela ne ressemble pas à ce qu'ils ont vu, et ce qui fait que nous ne pouvons considérer en nous-mêmes sans une certaine émotion, en songeant que c'est de l'existence de notre pensée que dépend pour quelque temps encore leur survie, le reflet des lampes qui se sont éteintes et l'odeur des charmilles qui ne fleuriront plus. Et sans doute par là, le salon de la rue Montalivet faisait pour Brichot tort à la demeure actuelle des Verdurin. Mais d'autre part, il ajoutait à celle-ci, pour les yeux du professeur, une beauté qu'elle ne pouvait avoir pour un nouveau venu. Ceux de ces anciens meubles qui avaient été replacés ici, en un même arrangement parfois, conservés, et que moi-même je retrouvais de la Raspelière, intégraient dans le salon actuel des parties de l'ancien qui, par moments, l'évoquaient jusqu'à l'hallucination, et ensuite semblaient presque irréelles d'évoquer, au sein de la réalité ambiante, des fragments d'un monde détruit qu'on croyait voir ailleurs. Canapé surgit du rêve entre les fauteuils nouveaux et bien réels, petites chaises revêtues de soie rose, tapis brochés de tables à jeux élevés à la dignité de personne, depuis que, comme une personne, il avait un passé, une mémoire, gardant dans l'ombre froide du Quai Conti le hâle de l'ensoleillement par les fenêtres de la rue Montalivet, dont il connaissait l'heure aussi bien que Madame Verdurin elle-même, et par les baies des portes vitrées de Deauville, où on l'avait emmené et où il regardait tout le jour, au-delà du jardin fleuri, la profonde vallée, en attendant l'heure où Cottard et le flûtiste feraient ensemble leur partie. Bouquet de violettes et de pensées au pastel, présent d'un grand artiste ami, mort depuis, seul fragment survivant d'une vie disparue sans laisser de traces, résumant un grand talent et une longue amitié, rappelant son regard attentif et doux, sa belle main grasse et triste pendant qu'il peignait. Incohérent et joli désordre des cadeaux de fidèles, qui ont suivi partout la maîtresse de la maison, et ont fini par prendre l'empreinte et la fixité d'un trait de caractère, d'une ligne de la destinée. Profusion des bouquets de fleurs, des boîtes de chocolat, qui systématisaient, ici comme là-bas, son épanouissement suivant un mode de floraison identique. Interpolation curieuse des objets singuliers et superflus qui ont encore l'air de sortir de la boîte où ils ont été offerts et qui restent toute la vie ce qu'ils ont été d'abord, des cadeaux du 1er janvier. Tous ces objets, enfin, qu'on ne saurait isoler des autres, mais qui, pour Brichot, vieille habituée des fêtes des Verdurin, avait cette patine, ce velouté des choses auxquelles, leur donnant une sorte de profondeur, vient s'ajouter leur double spirituel. Tout cela éparpillait, faisait chanter devant lui comme autant de touches sonores qui éveillaient dans son cœur des ressemblances aimées, des réminiscences confuses, et qui, à même le salon tout actuel, qu'elle marquetait çà et là, découpait, délimitait, comme fait par un beau jour un cadre de soleil, sectionnant l'atmosphère, les meubles et les tapis, et la poursuivant d'un coussin à un porte-bouquet, d'un tabouret au relent d'un parfum, d'un mode d'éclairage à une prédominance de couleurs, sculptait, évoquait, spiritualisait, faisait vivre une forme qui était comme la figure idéale, immanent à leurs logis successifs, du salon des Verdurin. « Nous allons tâcher, me dit Brichot à l'oreille, de mettre le baron sur son sujet favori. Il y est prodigieux. » D'une part, je désirais pouvoir tâcher d'obtenir de M. de Charlus les renseignements relatifs à la venue de Mademoiselle Vinteuil et de son ami. D'autre part, je ne voulais pas laisser Albertine seule trop longtemps. Non qu'elle pût, incertaine de l'instant de mon retour, et d'ailleurs à des heures pareilles où une visite venue pour elle ou bien une sortie d'elle eussent été trop remarquées, faire un mauvais usage de mon absence, mais pour qu'elle ne la trouvât pas trop prolongée. Aussi dis-je à Brichot et à M. de Charlus que je ne les suivais pas pour longtemps. « Venez tout de même, » me dit le baron, dont l'excitation mondaine commençait à tomber, mais qui éprouvait ce besoin de prolonger et de faire durer les entretiens que j'avais déjà remarqués chez la duchesse de Guermantes aussi bien que chez lui, et qui, tout en étant particulier à cette famille, s'étend plus généralement à tous ceux qui, n'offrant à leur intelligence d'autres réalisations que la conversation, c'est-à-dire une réalisation imparfaite, reste inassouvi même après des heures passées ensemble et se suspendent de plus en plus avidement à l'interlocuteur épuisé, dont ils réclament par erreur une satiété que les plaisirs sociaux sont impuissants à donner. « Venez, reprit-il, n'est-ce pas, voilà le moment agréable des fêtes, le moment où tous les invités sont partis, l'heure de Donia Sol. Espérons que celle-ci finira moins tristement. « Malheureusement, vous êtes pressé, probablement d'aller faire des choses que vous feriez mieux de ne pas faire. Tout le monde est toujours pressé, et on part au moment où on devrait arriver. Nous sommes là comme les philosophes de couture, ce serait le moment de récapituler la soirée, de faire ce qu'on appelle, en style militaire, la critique des opérations. On demanderait à Madame Verdurin de nous faire apporter un petit souper, auquel on aurait soin de ne pas l'inviter. » Et on prierait Charlie, toujours Hernani, de rejouer pour nous seuls le sublime adagio. Eh, ça c'est beau, cet adagio! Mais où est-il, le jeune violoniste? Je voudrais pourtant le féliciter. C'est le moment des attendrissements et des embrassades. Avouez, Brichot, qu'ils ont joué comme des dieux, Morel surtout. Avez-vous remarqué le moment où la mèche se détache? Ah! « Bien alors, mon cher, vous n'avez rien vu. On a eu un fa dièse qui peut faire mourir de jalousie Enesco, Capet et Thibault. J'ai beau être très calme, je vous avoue qu'à une sonorité pareille, j'avais le cœur tellement serré que je retenais mes sanglots. La salle haletait. Brichot, mon cher !» s'écria le baron en secouant violemment l'universitaire par le bras. « C'était sublime !» Seul le jeune Charlie gardait une immobilité de pierre. On ne le voyait même pas respirer. Il avait l'air d'être comme ces choses du monde inanimées dont parle Théodore Rousseau, qui font penser mais ne pensent pas. « Et alors, tout d'un coup !» s'écria M. de Charlus avec emphase et en mimant comme un coup de théâtre. « Alors, la mèche !» Et pendant ce temps-là, gracieuse petite contredanse de l'Allegro vivace. Vous savez, cette mèche a été le signe de la révélation, même pour les plus obtus. La princesse de Taormine, sourde jusque-là, car il n'est pas pire sourde que celles qui ont des oreilles pour ne pas entendre. La princesse de Taormine, devant l'évidence de la mèche miraculeuse, a compris que c'était de la musique et qu'on ne jouerait pas au poker. Oh, ça a été un moment bien solennel. Pardonnez-moi, monsieur, de vous interrompre, dis-je à monsieur de Charlus pour l'amener au sujet qui m'intéressait. Vous me disiez que la fille de l'auteur devait venir. Cela m'aurait beaucoup intéressé. Est-ce que vous êtes certain qu'on comptait sur elle ?
Ah, je ne sais pas.
Monsieur de Charlus obéissait ainsi, peut-être sans le vouloir, à cette consigne universelle qu'on a de ne pas renseigner les jaloux, soit pour se montrer absurdement bon camarade, par point d'honneur, et la détestât-on envers celle qui l'excite, soit par méchanceté pour elle, en devinant que la jalousie ne ferait que redoubler l'amour, soit par ce besoin d'être désagréable aux autres, qui consiste à dire la vérité à la plupart des hommes, mais aux jaloux à la leur taire, l'ignorance augmentant leur supplice, du moins à ce qu'on se figure, et, pour faire de la peine aux gens, on se guide d'après ce qu'on croit soi-même, peut-être à tort, le plus douloureux. « Vous savez, reprit-il, ici c'est un peu la maison des exagérations, ce sont des gens charmants, mais enfin, on aime bien annoncer des célébrités d'un genre ou d'un autre. Mais vous n'avez pas l'air bien, et vous allez avoir froid dans cette pièce si humide, dit-il en poussant près de moi une chaise. Puisque vous êtes souffrant, il faut faire attention. Je vais aller vous chercher votre pelure. Non, n'y allez pas vous-même, vous vous perdrez et vous aurez froid. Voilà comme on fait des imprudences. Vous n'avez pourtant pas 4 ans. Il vous faudrait une vieille bonne comme moi pour vous soigner. « Ne vous dérangez pas, baron, j'y vais !» dit Brichot, qui s'éloigna aussitôt. Ne se rendant peut-être pas exactement compte de l'amitié très vive que M. de Charlus avait pour moi et des rémissions charmantes de simplicité et de dévouement que comportaient ces crises délirantes de grandeur et de persécution. Il avait craint que M. de Charlus, que Mme Verdurin avait confié comme un prisonnier à sa vigilance, eût cherché simplement, sous le prétexte de demander mon pardessus, à rejoindre Morel et fit manquer ainsi le plan de la patronne.